Vous écoutez
RMC.
RMC.
Si vous remarquez mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur du jeu. Avec Dessy, comme je l'ai dit l'autre fois, je serais au Real.
Un joueur, faut pas arriver le matin, manger un bar au chocolat, faire l'entraînement et manger le pizza à 13h.
Je voulais souhaiter la bienvenue à Bruno Benvindo.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h de l'after, continue jusqu'à minuit. Vous savez que demain soir, on aura une soirée un peu chamboulée parce qu'il y a un match de Ligue 1 demain décalé, donc entre Lille et Lyon. On le vivra sur RMC, on l'analysera ensuite. Florent Gautreau est là, Walid Acherchour est là et Cédric nous rejoint, supporter de Monaco. Monaco assuré de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Salut Cédric.
Bonsoir messieurs.
Bon, salut Cédric.
Salut Cédric. En même temps, c'était pas non plus... c'était attendu, voilà.
Bah, c'est normal, ouais. Là, je veux dire, vu le standing de Monaco, ça fait plaisir de pouvoir retrouver la Ligue des Champions.
C'était
maintenant.
Normal, mais c'était pas arrivé depuis un bout de temps, quand même.
Ouais, ça faisait 6 ans déjà.
Ouais.
Le temps passe vite.
Et en début de saison, on va dire que c'était pas les favoris parmi tout le monde, hein.
Non,
vu la fin de saison de l'an dernier. Hein. Moi, je les avais sur le podium.
Alors, mais quand, t'as raison.
Mais quand je disais Monaco, ça doit faire podium, il y en a qui disaient non, mais Rennes, Marseille, alors, Lille.
T'as raison, on les a un peu parfois oubliés, mais ils avaient quand même un avantage dingue, c'était de pas avoir de Coupe d'Europe et un effectif digne de ce nom. Y compris peut-être pour aller en. Vous pouvez le penser, de challenger un peu
les années passées aussi.
Mais sans Coupe d'Europe, oui. Ça n'a pas toujours été
oui,
le cas.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Donc, c'est vrai que cette année, moi j'avais fait un avis récemment pour dire il faut qu'ils soient sur le podium. Daniel m'a dit ouais, non, t'es pas très original. Je dis non, mais ils n'ont même pas le choix. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de faire autrement. Ouais. Ce sera un échec. Et d'ailleurs, des gens au club m'ont dit derrière, on avait parlé avec Simonet, tu sais, Rovera qui maintenant s'occupe de la communication. Mais la plupart, tout le monde est d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y avait une forte exigence. C'est-à-dire que tout le monde avait envie aurait considéré en gros que quatrième c'était nul, tu vois, c'était clair et net. Donc ils sont à leur place.
Vraiment, ils font 6.
Ils ont bien rétabli quand même la situation, hein, Cédric.
Oui, ils l'ont carrément bien rétabli. Après, je pense que c'est dû aussi un peu à la faiblesse du championnat, parce que quand t'es deuxième avec 42 buts encaissés, heureusement on a une attaque de feu. Moi, une attaque de feu, on a un Ben Yedder qui est quand même à 15 buts en championnat.
Maintenant, il a encore mis ses 15 buts en Ligue 1.
Ouais, c'est ça, 15 buts en Ligue 1, 19 avec la Coupe de France. Mais bon, je suis content, je veux qu'on retrouve la Ligue des Champions, mais je reste un petit peu pessimiste par rapport à l'entraîneur, parce que bon, j'ai regardé tous les matchs, je trouve qu'il manque de charisme, les changements arrivent tardivement quand l'équipe joue mal, il se rend pas compte des joueurs qui peuvent être fatigués, des choses comme ça, et c'est ça qui me fait un peu peur. Et puis 42 buts encaissés, moi.
Ça concède beaucoup, même contre Clermont. Moi, j'ai regardé le match. Ils veulent ce match un peu ping-pong parce qu'ils savent très très bien qu'offensivement ils sont plus forts que Clermont et on l'a vu juste après l'égalisation clermontoise. Derrière, dès qu'ils réaccélèrent, ils mettent le deuxième but. Mais je trouve quand même que défensivement, ça concède encore quand même beaucoup beaucoup beaucoup.
Mais c'est le même problème depuis au moins 4 saisons. Hein. On est à plus de 40 buts encaissés sur les 4 dernières saisons. Et bon, Maripane, j'aime bien, c'est un guerrier, mais il commence à être dépassé. Après, on va prendre des jeunes pour mettre à côté, mais qui n'ont pas forcément d'expérience.
Kerrer, c'est voilà. Pas dingue, hein, Kerrer. Hein.
Bah, Kerrer, après, alors, j'étais pessimiste. Je trouve que quand il est arrivé, il s'est quand même bien intégré. Et puis après, bon, bah voilà, ça reste.
Compliqué
derrière.
Je pensais que c'était une bonne idée, mais quand même, je trouve ça irrégulier. Après, il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Mais moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup. Bon, il y a Minamino qui revient, qui fait une belle saison, qui revient à un très très bon niveau.
Il revient pas, il vient.
Il vient, parce que l'année dernière, il était pas encore là.
Mais c'est
aussi Magnès Akliouche. Que moi je trouve très très bon en ce moment depuis que il y a Golovin qui a eu sa blessure, il y a Ben Seguir qui cette saison, et on en parlera tout à l'heure dans les trophées UNFP, je comprends pas ce qu'il fait
dans
les meilleurs espoirs, notamment avec le peu de temps de jeu qu'il a eu. Mais Akliouche, il est en train de prendre une dimension là, même que ce soit avec le ballon, sans le ballon. Tu parlais de charisme tout à l'heure, quand il prend le ballon, ses conduites de balle, il est dans la percussion, il fait marquer, il marque. Je le trouve vraiment très bien.
Même au niveau de l'état d'esprit, il est conquérant. Et ça fait du bien à Monaco. Parce que pour jouer à Monaco, et c'est Eric Dimeco qui l'expliquait très bien, il faut avoir du caractère. Parce qu'avec le public, c'est pas toujours ça. Mais même si à l'extérieur, on est toujours nombreux, mais à domicile, c'est plus compliqué. Mais voilà, il faut des joueurs de caractère. Et moi, je lance un appel aussi au club, moi, aux supporters, moi, Ben Yedder. comment on pourrait se passer de ce joueur-là la saison prochaine. Je sais qu'il n'est pas toujours apprécié. Il peut paraître nonchalant, mais il est capable de jouer en neuf. Il est capable de jouer, on le voit.
Non, c'est Ben Yedder, c'est l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite.
Oh, franchement, ouais, je suis dégoûté.
Non, il y a des grandes chances qu'il y aille en fin de saison.
Je lis les journaux, mais je.
Oui, je pense que ça ne fera pas de. Ça fera pas de 33 ans, dernier gros contrat.
Attention, à Monaco, ils ont réussi à recruter.
Oui, oui.
Cédric, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas un bon attaquant qui arrive.
Ouais, mais bon, est-ce qu'on va avoir un attaquant de la trempe de Ben Yedder?
Non, on ne sait pas, mais avec Mbolo et la deuxième saison de Balogun, même s'il est très décevant, et moi j'en parle souvent, on parle beaucoup de Mumbanya, etc., mais Balogun,
moi, je ne peux pas l'enfoncer.
35 millions d'euros, Balogun, quand même, la saison qui pond.
Non, mais là, Cédric, où tu as raison, par rapport au, on va dire, au profil des recrutements nécessaires, c'est derrière. Parce que franchement, une équipe de ce niveau-là, de devant, déjà, tu as raison, il y a déjà des joueurs, bon, on en a parlé, mais la blessure de Caio Henrique a fait du mal aussi, mais c'est vrai que c'est derrière. Cette équipe-là, genre, on va parler de Rennes tout à l'heure, les saisons sont tellement liées à ça. C'est vrai que c'est très rare, tu as raison de le souligner d'ailleurs, de finir en haut du classement avec une défense aussi perméable. Mais c'est vrai que ce club-là, dans ses recrutements défensifs, doit faire différemment et bien mieux. Parce que c'est vrai que sinon, pour le reste, milieu attaque,
c'était énorme. Ce qui nous a sauvés, c'est qu'on a toujours eu, pareil depuis 4 ans, la deuxième attaque du championnat. Ce qui nous manque réellement, c'est un vrai défensif central.
Bah, bien sûr.
Voilà, je sais pas. Et après, j'ai pas de nom à citer ou quoi que ce soit.
En revanche, ils sont trouvés un gardien.
Ouais, belle surprise, Maïki.
Comment on dit
Maïki?
Je sais pas.
Moi, je dis Maïki. Comme on le sent.
Mais en tout cas, c'est important parce que, alors, on se souvient évidemment l'an dernier, c'était une cata. Mais Maïki est sans doute meilleur même que Kuhn. Donc c'est assez.
En tout cas, moi, je trouve sur les derniers matchs, je le trouve vraiment impressionnant.
Il a rassuré la défense aussi, parce que pendant un moment, tu jouais avec Kuhn derrière, t'avais peur. Et ça y a fait beaucoup. Mais bon, maintenant, il nous faut, alors maintenant, avec des champions, on va dire que c'est quasi assuré, et puis on verra le recrutement, mais c'est.
Noubel, il est transféré, Noubel?
Noubel, pour moi, il est plus là.
Ouais, parce qu'à Stuttgart, il fait une sacrée saison.
Ouais, mais je sais pas, j'en veux
plus. Ils sont troisième de Bundesliga.
Noubel, il est particulier, même en termes de communication, il s'est renfermé comme gardien.
En tout cas, pour revenir à la défense, on parlait Ligue 1, ça passe d'être deuxième avec 42 buts.
En Ligue des Champions,
t'es mort.
Ouais.
Bah, tu vois, c'est clair et net. Bon, ils le savent, il s'est identifié.
Il y a Yedder et Fofana. Fofana va sûrement partir l'année prochaine.
Ouais, aussi, oui.
Ouais, donc il va falloir voir.
Monaco, ils ont encore match à Montpellier et réception de Nantes. Bon, Montpellier, ils sont tranquilles.
Oui. Ouais, là, ça sent le.
Sans les grandes vacances. En plus.
Ouais.
Il a pris un rouge. Bref.
Après, ils ont des sous, Monaco. Ils vont investir.
Oui, et puis ils vont bien vendre, comme d'hab.
Oui, ils vont bien vendre.
Merci, Cédric. Restons dans le haut du classement et parlons de Rennes, comme promis.
Le haut du classement, t'es gentil.
En parlant de recrutement, un joueur qui flambe à Metz, là, en ce moment, vous le prenez à Monaco?
Un joueur qui flambe, quoi, Miko Tadze?
Ouais. Pour remplacement de Ben Yedder?
À Rennes?
Bah, pourquoi pas, hein.
Non, Miko Tadze,
je pense qu'il peut avoir du monde sur lui. Hein.
Miko Tadze, donc il a pas joué un match, le mec, à Ajax. C'est quoi, ils ont Canou et River?
Il racontait dans l'interview à l'équipe, là, récemment, que personne prenait de nouvelles. Il est parti, personne.
C'est moi. Si vous aviez écouté Bruno Satin, l'agent 001, il nous avait dit au moment où Miko Tadze part, il nous avait expliqué, il nous avait dit à l'Ajax, il y a une guerre entre.
Oui, entre le directeur sportif qui avait fait plein de magouilles et l'entraîneur.
Et qui voulait lui faire venir Miko Tadze, le coach en voulait pas.
Oui.
Et Bruno lui a dit, vous allez voir, il n'y a pas joué de minutes.
Il y a Brobé et
peut-être que c'était Miko Tadze à son agent.
Brobé, celui qui vient de Middlesbrough, là, qui devait aller à Lens, je me rappelle.
Et d'anticiper, parce que. Alors, Rennes, ils sont toujours 7e, donc ils peuvent être européens malgré tout. 7e,
oui, c'est sûr, avec ses possibilités à rallonge, aller chercher la Coupe d'Europe bientôt à la 8e place, évidemment, à un moment donné, tu joueras l'Europe en étant 13e à la 34e journée. Donc, évidemment, plus tu réduis le championnat en nombre et plus tu mets de place européenne, c'est jouable. Non, mais pour être sérieux, on se souvient du début de saison, de l'objectif affiché, et c'est très bien d'ailleurs de le dire de la part de Florent Maurice et des dirigeants d'Olivier Cloarec d'être dans le top 4. C'est pas le cas, et l'équipe n'a pas été bonne globalement. C'est-à-dire que maintenant on peut le dire, cette saison est un échec. Quoi qu'il arrive, derrière, tu peux aller choper l'Europe et tout, mais.
L'Europe, 7e place.
En fait, l'idée, c'est exactement, ça n'a rien à voir. En fait, il faut savoir, pour Rennes, il faut dézoomer. Qu'est-ce que tu veux? tu veux être un des grands clubs français qui justement ne va pas être juste quatrième cette année, va être dans le top 5 français de manière pérenne. Pour ça, tu vas changer de stade parce qu'il y a un projet de nouveau stade. Pour ça, tu as montré quelque chose, tu as expliqué à tout le monde et à juste titre qu'il y avait un jeu un peu à la rennaise, qu'il y avait une hype autour du club, c'est le cas, que le stade est plein à tout le match, c'est vrai. Donc tu te dis maintenant on va passer une étape supplémentaire. Et ben en fait là le truc c'est qu'ils se sont pris, ils se sont cassés la gueule dans l'escalier là cette année. C'est-à-dire que ils ont pas du tout passé l'étape supplémentaire. Et notamment, là, on en revient à ça, c'est pour ça que je fais ce comparatif avec Monaco, parce que derrière, tu t'es planté. Enfin, je parle défensivement. Donc, en fait, cette équipe-là, toute la, le match, t'as résumé le dernier match là, à Metz. Offensivement, à tout moment, cette équipe-là peut marquer et a des joueurs de talent. Et encore, ils n'ont pas été tous au top niveau cette année pour plein de raisons. Retour de blessure pour Terrier, Bourigeaud, il y a eu des hauts et des bas.
Kalimundo, c'est un peu mieux l'ensemble.
Kalimundo fait une bonne fin de saison. Ouais. Moi, je l'ai beaucoup critiqué, t'as raison. Mais ils ont, Guiri, ils ont du talent à tous les étages devant. Ouais. Mais alors, derrière, pour te dire, le taulier aujourd'hui, pour te dire qu'en deux ans, t'as perdu, t'avais Aguerd et Traoré. Qui tenait la défense, tu vois.
Ah, guerre, ça fait, j'étais encore au lycée, hein, quand il était là. Non, ça commence à remonter.
Il y a deux ans.
Oui,
il y a deux ans.
C'est pour vous dire.
J'étais au lycée.
Non, mais ça commence à
durer
quand même.
Ouais, mais Walid,
j'ai l'impression que toutes les émissions, on parle de guerre.
La saison de référence, pour te dire, c'est ça qui est terrible. Quand je te dis que.
C'est la première de Genesio.
Oui, et c'est pour te dire que quand tu es dans une logique où tu dois regarder l'équipe progresser, c'est te dire qu'il y a deux ans, tu avais un meilleur défenseur central, qui est accompagné au mari d'ailleurs, et un meilleur latéral droit, en l'occurrence, Marie Traoré. Tu les as perdus pour X raisons, peu importe. Tu te dis, ok, derrière, on va trouver mieux. C'est pas le cas. Et Genesio avait dit à un moment donné à Maurice, en gros, si c'est pour ne pas me trouver en gros la perle rare, tant pis, je préfère jouer avec les jeunes. Parce qu'il y a aussi ça, le déficit du management. Est-ce que les coachs qui sont passés ont été capables ou se sentaient capables d'aller gérer un autre effectif que celui-là? Pas sûr. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut passer une étape. Est-ce qu'ils vont la passer avec Stéphane? Pas sûr. Parce qu'en fait, c'est ça la question. Est-ce qu'ils vont la passer avec Flo Maurice, là maintenant directeur sportif? Pas sûr. Moi, je pose les vraies questions parce que je me dis que pour le
mais
bien du club.
Ils ont prolongé Stéphane.
Oui, c'est pour ça le problème. Moi, je te dis que regarde bien, à partir du moment où ils ont prolongé Stéphane, l'équipe là, globalement, elle s'est arrêtée.
Ouais.
Parce que quelque part, cette équipe là, quand elle est dans le confort. Tous, hein, les joueurs, c'est eux qui se sont arrêtés, hein, un peu.
Après, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet?
Je pense inconsciemment. Ouais. Je te dis ça dans le
cas,
sens où
peut-être qu'ils sont pas précipités.
C'est une forme de confort, tu sais, pour les joueurs, en sachant que avec ce coach, ça se passe bien. Ouais. Bon, globalement, voilà.
Ils auraient pu attendre la fin. Et Stéphane, je pense, en
exactement.
Aussi,
je pense que l'annonce de la prolongation a été faite trop tôt.
Ouais,
ils se sont emballés, ils sont allés trop vite. Ça, c'est un des points. Après, déjà, la question de pose savoir est-ce qu'on doit aller et continuer avec Stéphane ou pas. La question qui se pose après le départ de Genesio, ils l'ont traité en urgence. Mais la question plus globale pour le club, je le dis, c'est la progression. Est-ce que tu vas changer de dimension, d'époque et d'étape avec Stéphane? Peut-être, hein. J'ai pas la réponse. Je dis juste, t'es pas sûr. Si t'avais sorti un coach, un nouveau coach avec un projet et avec un recrutement différent à venir, tu dis, ok, il y a un projet, il y a quelque chose qui s'inscrit. Là, moi, je dis juste, quel est le projet du Stade Rennais?
Et moi, je vais te le dire, moi, Flo.
Quel est le projet du Stade Rennais? En tout cas, je suis hyper sceptique et juste pour finir, effectivement, déception. Échec cette année. Et dernier point, la défense. Théâtre est considéré comme le taulier et c'est un mec exceptionnel. J'adore ce mec.
Il a un gros état d'esprit, mais il fait des erreurs.
Et il n'a que 23 ans. En fait, le taulier de la défense du Stade Rennais, parce qu'on pense que c'est un vieux briscard et tout, et c'est un mec génial. C'est un mec vraiment en or. Que j'adore et qui va progresser. Ouais. Mais aujourd'hui, tu peux pas aller à la guerre en changeant ta défense, en mettant au bout parfois, en le mettant pas, en ayant un théâtre qui lui-même n'est pas irréprochable et qui, maintenant, le pire, c'est que même Mandanda s'est mis à faire des erreurs. Alors là, t'es mal.
Mais théâtre, le match contre Metz résume un peu ce que t'es en train de dire, c'est qu'il est en état d'esprit complètement dingue et c'est lui qui va sauver le troisième but messin sur sa ligne. Mais sur les deux premiers buts, il est fautif.
Bien sûr.
Et c'est vrai, tu le vois énormément. C'est lui qui va mettre le but le 4-2 ou 4-3 contre Brest. Cette frappe dingue, etc. Mais au-delà de théâtre, et encore, c'est pas le pire. Quand tu vois la saison de Warmed au Marie, à un moment donné, il faut arrêter le massacre. Quand tu vois encore une fois Christopher Wu, parfois bon, parfois moyen. Moi, je vais te dire par rapport au projet. Déjà, le principal responsable de cette saison, c'est Florian Maurice. C'est voilà, il faut pas chercher ailleurs. Ni Genesio a sa part de responsabilité, Stéphane aussi. Mais moi, je pense que le responsable numéro un, il s'appelle Florian Maurice, et que le projet Euro Espoir là, c'est-à-dire tous les mecs Euro Espoir, Enzo Lefebvre, Amine Guiri, Kalimundo, à un moment donné, il faut qu'ils soient encadrés par une colonne vertébrale d'expérience. Et moi, je vais te dire, c'est quoi pour moi l'exemple que doit prendre Rennes? C'est Lille 2021, quand ils gagnent le titre. Ils ont quoi comme colonne vertébrale? José Fonte, Benjamin André, Bourak Yılmaz. ils ont une, encore une fois, et après à côté tu mets du joueur talentueux, mais il te faut un défenseur central d'expérience va pouvoir amener une grinta son comme je viens de l'expliquer, son expérience au milieu de terrain, la même chose, et devant la même chose. Là les jeunes qui popent de partout, etc., on a bien vu que ça marchait pas, ça fonctionnait pas. Tu parlais d'Amari Traoré, ok, Amari Traoré tu le laisses partir. Au début, tu mets Lorenz Assignon, qui fait 6 premiers mois plutôt intéressant offensivement. Défensivement, c'est un peu moins bien. Derrière, tu l'emmènes à Burnley en janvier pour mettre Guéladoué. Guéladoué, il fait des bons petits matchs. Mais elle est où la logique? Je ne comprends pas. Tu sors Amari Traoré, qui était un taulier de ton équipe, capitaine, pour mettre deux jeunes 6 mois. Donc et puis le recrutement, il est raté, le recrutement, pour l'instant. Alors on va attendre l'année prochaine, parce que maintenant le football c'est une salle d'attente, hein. Il faut attendre, faut être indulgent avec tous les joueurs, on va attendre, faut attendre pour tout le monde. Mais Enzo Lefebvre, les blessures, malheureusement, il a eu des bonnes choses, mais il y a trop de blessures cette année. Ludo Blas, son état d'esprit catastrophique. Quand il rentre, à chaque fois c'est il est d'une nonchalance incroyable. Il dirime. Oh, c'est pas fou. Ouais. Matusiwa, j'en attends un peu plus, parce que je pense que c'est un bon joueur. On va voir ce qui va se passer. Il vient d'arriver. Le petit Seydou, qui était très très bon à Clermont. Mais t'as besoin d'un mec physiquement, défenseur central, qui impose quelque chose. Tu vas prendre le petit Seydou, qui fait 1m70, qui est bien meilleur dans une défense à 3, et tu le mets latéral droit.
Non mais
c'est un stopper droit, Seydou, qui peut être monstrueux, mais dans une bonne animation. Il y a des choses à Rennes, je n'arrive pas à comprendre.
Non mais il y a un truc de dingue.
Et puis tu perds Matic, le joueur un peu qui devait apporter cette expérience là, et on voit qu'à Lyon quand même c'est bien mieux. Tu le perds. Bon, après pour des raisons différentes, l'école, etc. Il y a quand même des choses qui ont été mal faites.
Il y a deux choses. Il y a le recrutement, tu l'as dit, et tu as raison de dire, y compris cet hiver, parce que même nous on a été presque trop positif. Quand on a dit Matusiwa, Seydou, tiens, c'est bien.
C'est deux bons joueurs.
Mais,
hein,
mais finalement, tu te dis que pour Rennes, justement, ouais, si Rennes veut être ce qu'ils veulent être, c'est insuffisant aussi. Matusiwa, même s'il a fait un bon match, c'est insuffisant. Ouais. Ça fait pas la diff. Seydou, ça fait pas la diff. Donc derrière, tu l'as dit, les jeunes, même si certains sont bons, ils ont besoin d'être encadrés. C'est-à-dire que c'est certains jeunes qui peuvent être meilleurs que ça. Guéladoué, c'est un très bon joueur.
Mais
il faut qu'il soit encadré. Il peut pas devenir Assignon, pareil. C'était une pépite, sauf qu'il était dans la salle d'attente pour avoir un transfert. On lui garantissait pas de jouer, donc au bout d'un moment, c'est lui aussi et c'est son entourage qui a
voulu partir. Oui, mais on lui garantissait pas de jouer, mais il y a six mois, on sort Amari Traoré parce que on dit Lorenz Assignon, il va jouer latéral droit.
Ouais, enfin en partie.
Je sais pas si t'as d'autres infos, mais
c'est un peu plus compliqué justement parce que je pense que les discours ont pas toujours été aussi clairs et surtout dans l'attente ou pas d'avoir d'autres défenseurs qui devaient arriver. Et finalement, je te dis, Genesio dit à Maurice, si c'est pas du top. Alors que Maurice lui faisait des propositions, pour le coup, il a cherché, il avait des idées. Genesio préférait, c'est là peut-être la limite, hein, d'ailleurs pour moi. Il s'est dit je préfère, ce qui était peut-être assez logique dans sa tête par rapport à ce qu'on vient de dire là, d'avoir un très bon défenseur comme Kim Min-jae, puisque ça avait été une de leurs pistes. Sinon, c'est pas la peine, je me débrouille avec ce qu'on a au centre de formation. À la fois, c'est pas bête, mais au final, c'est trop risqué, c'est trop dangereux. Tu peux pas faire ça parce que tu risques de cramer aussi tes jeunes joueurs. Même si, effectivement, ceux qui sortent du centre de formation de Rennes sont très bons. Enfin, là-dessus, il y a pas de souci. C'est toujours un des meilleurs centres. Après, la deuxième chose, l'affaire Matic est emblématique justement de ce problème de dimension. C'est-à-dire que c'est comme par hasard à Rennes que Genesio s'en va, alors que finalement, on le prolonge parce que dans le moment de crise, on lui avait dit bon, finalement, on va continuer. Mais lui, il se dit bon, moi, j'arrête. C'est dans ces moments-là que Stéphane à un moment donné a dit bah moi aussi je vais arrêter. C'est dans ce moment-là que pour d'autres raisons certes Matic dit aussi je m'en vais. Si c'est le grand club, l'institution, le truc imparable, tu t'en vas pas.
Oui.
Tu t'en vas pas. Si t'es Genesio, tu dis je continue. Ouais. Si c'est Matic qui te dit ici c'est top, c'est incroyable, on va grandir. Voilà. Tout ça, ça te montre juste, et c'est pas, franchement, c'est pas, comment te dire, c'est pas pour faire de la polémique, hein. C'est vraiment pour un souhait. C'est que le club doit vraiment grandir. Ouais. Donc à tous les étages pour se dire, on doit effectivement se dire quel est le projet sportif, avec quel type de joueur pour aller dans ce nouveau stade. Parce que l'intérêt de remplir le stade et d'en avoir un plus grand, il est clair. L'histoire, le lien avec la population que je vis au quotidien, il est énorme, il est incroyable. Donc finalement, t'as les fondements d'un truc qui est dingue. Mais là, t'es en train, à minima, de perdre du temps. Parce que ce genre de saison-là est très, très destructeur.
Je termine là-dessus. Conclusion. Mais t'as très, très bien vendu. Mais t'as beaucoup acheté. Quand je dis Théâtre 20 millions d'euros, Le Fay 15 millions d'euros, même
Calimuendo.
Si on Calimuendo 25, Guiri il était dans l'échange de la Borde, ça coûte aussi beaucoup d'argent, j'ai pas le chiffre précis. Matusiwa c'est 17 plus 3 ou aux alentours, Seydou c'est plus de 10 millions d'euros, au milieu de terrain Santa Maria, il vient de Fribourg, c'est 14 millions d'euros, il me semble. C'est quand même beaucoup d'argent. À un moment donné, il faut aussi que t'as quand même de la qualité sur le terrain. Ludo Blas c'est 15 millions d'euros.
Walid, je rajoute un point très intéressant qu'il faudrait développer, mais c'est complexe. On est dans la situation d'un club où tu te dis c'est top, on a un mécène entre guillemets, on a Pinault le propriétaire, et mais c'est aussi entre guillemets un frein pour les dirigeants. C'est-à-dire que le président emblématique qui a été Olas à Lyon, enfin tu sais qui, c'est difficile de diriger le club au quotidien, j'entends, avec Pinault au-dessus. C'est-à-dire que c'est évidemment une chance financièrement, mais concrètement, dans la prise de décision et dans la marque que tu veux imprimer au club, c'est pas simple de diriger le Stade Rennais dans ce fonctionnement-là, dans ce fonctionnement institutionnel.
Bon, au contraire, je trouve
point
que
Formule 1.
Plutôt
Jean-Luc,
l'un des clubs le plus facile. Hein.
Nous sommes dans le 50e des 57 tours de ce Grand Prix et Norris tient toujours la barre avec la McLaren. Oui, il a même augmenté son avance. Il l'a porté à 5 secondes 6 sur Verstappen, qui s'est plaint tout à l'heure auprès de son ingénieur que la voiture ne tournait pas comme il voulait. On est à peu près dans les mêmes temps. Sur le dernier tour, 1.31.177 pour Norris, 1.31.597 pour Verstappen, qui a encore perdu donc 4 dixièmes de seconde. Charles Leclerc est derrière, il n'est pas loin de Verstappen, il n'est qu'à 2 secondes. Troisième position avec la Ferrari. Le quatrième, c'est l'autre Ferrari de Carlos Sainz. Et puis derrière, on a Sergio Perez qui tourne à peu près dans les mêmes temps. Alors on a vu une superbe passe d'armes là entre Lewis Hamilton, qui est remonté au 6e rang, et Yuki Tsunoda. Hamilton a pris le dessus, et puis passe d'armes également derrière entre Fernando Alonso et Esteban Ocon pour la 9e et 10e place. Esteban a été dépassé par Fernando Alonso, mais il reste dans les points, il est 10e pour le moment, rien n'est joué là, à quelques tours de l'arrivée, les écarts sont vraiment réduits pour le moment et les 4 premiers sont en pneus durs, alors que derrière on est en pneus médium du côté de Perez et Hamilton.
Merci Jean-Luc, on fait un point dans quelques minutes et je vous rappelle également, vous le savez, on vous le dit depuis une semaine dans l'After, que mardi dans 48 heures le PSG joue le Borussia Dortmund et que l'After vous offre l'expérience RMC, on vous offre les places de match, la visite des studios de RMC en bonus puisqu'on n'est pas très loin du stade. Il faut simplement être à l'écoute de l'After et attendre que la petite musique bien connue, celle-ci, tombe. Voilà, la musique de la Ligue des Champions. Dès que vous l'entendez, vous envoyez, si vous voulez participer, vous envoyez PSG par SMS au 732-16. PSG par SMS au 732-16.
Vous êtes au stade mardi ?
Si.
Si ?
Nous, on est au stade, oui. L'after,
c'est l'after au stade.
Avec Jérôme Bretagne, Daniel Riolo.
C'est bon.
Voilà. À tout de suite dans l'after avec le débat maintien à venir, les trophées UNFP, Mbappé, la Formule 1. Bref, encore une grosse demi-heure d'after ensemble.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h25, sachez que le Sporting Portugal va être a priori champion dans quelques secondes parce que Benfica est mené à Famalicão 2-0 et si Benfica ne gagne pas ce soir, Sporting sera champion en l'occurrence en temps additionnel et il reste 2 minutes. Ça semble fait pour le Sporting. Il faudrait que Benfica marque 3 buts.
Benfica, c'est compliqué là. Ils sont entraîneurs allemands avec l'élimination de la Coupe d'Europe.
Après,
là,
le Sporting est devant dans le championnat de Portugal depuis longtemps.
Oui, oui. Ah,
ouais. Oui, je voulais qu'on dise un mot du maintien, les gars, parce que on s'amusait déjà la semaine dernière, et on le fait depuis plusieurs semaines maintenant, à regarder un peu les forces en présence. Les choses ont sans doute un peu évolué hier. C'est-à-dire que le match Nantes-Le Havre-Metz, Lorient-Clermont, c'est peut-être réduit là, parce que Nantes a 4 points d'avance, en sachant qu'il y en a 6 à prendre. Donc peut-être que le 0-0 de Nantes,
bon résultat.
Ouais, ce week-end et le match qui maintient Nantes en fait au fond.
Oui, je pense.
Le Havre a 3 points d'avance sur Metz.
Mais avec un goal average particulier, un goal average normal.
Ouais, moins 9 contre moins 20 à Metz. Ouais,
donc tu rajoutes un point.
Ouais, toi tu vois Le Havre, tu t'estimes qu'il ce soir ils sont.
Moi je pense que Le Havre a fait le plus dur contre Strasbourg, surtout avec les résultats combinés à la défaite de Lorient à Lens,
Ouais. Et la défaite de Metz contre Rennes, et surtout avec le carton rouge de Mikotadze. Mmh. Après, il faudra voir ce qui va se passer autour du rouge de Mikotadze. Mais là aujourd'hui, donc en fait, il faudrait que Metz fasse 4-6 contre Strasbourg. En fait,
la logique, c'est que Metz soit barragiste quoi maintenant.
Oui, je pense. Je pense que Lorient c'est terminé.
Bah, Lorient, il faut que les défaites.
Lorient en plus, ils vont à Marseille. Ouais, ils vont à Marseille, ils reçoivent Clermont. Mmh. Ils sont sur quoi, 5 défaites d'affilée, même plus. Je crois.
Même finir dernier Lorient.
Oui, ouais. Bah ils vont avoir un dernier match en fait qui comptera peut-être pour rien du tout. Il va sûrement compter pour rien du tout entre Lorient et Clermont. Et Metz, je répète, si Le Havre joue contre Nice, va à Nice et joue contre Marseille, un dernier match contre Marseille où Marseille pourrait être soit en finale d'Europa League, soit sur une fin de saison pas top du tout, même s'il faudra voir ce qu'ils feront contre Reims et Lorient. Mais moi, ouais, je pense qu'on a les trois. Qu'on a les trois derniers de notre championnat et que Metz ira au barrage avec Mikotadze. Après, à part s'ils font un gros résultat à Strasbourg, mais faut savoir que Patrick Vieira a été très très énervé après le match contre Le Havre sur l'attitude notamment des Strasbourgeois. Il a dit qu'il y en avait déjà qu'ils étaient en vacances, etc. Peut-être qu'il a pas mis assez de pression. Donc je pense que le dernier match à la Méno, est-ce que c'est un derby ou pas un derby Strasbourg-Metz?
Mais
c'est un match important quand même.
Ouais, voilà.
Donc je pense que Strasbourg va pas perdre une troisième fois d'affilée après le match contre Nice, contre Metz. Donc je pense que je pense pas que Metz fasse 4-6 déjà avec Mikotadze. Je ne le pensais pas. Alors sans Mikotadze qui te met un but, une passe, des par match. Oh. Le projet de jeu de Bologna, c'est très compact et Georges fait nous rêver. Hein.
Ouais, alors collectivement, c'est un tout petit peu mieux quand même.
C'est
beaucoup mieux.
C'est un peu mieux, mais c'est bon, je caricature un peu.
Le nul de Nantes, là, le point est important parce qu'ils avaient un calendrier hyper dur. Hein. Non, pour finir, ils avaient Brest, Lille et Monaco. C'était pas si simple pour Nantes, mais avec ce petit point là qui fait la diff, puisqu'ils ont 4 points d'avance sur Metz là maintenant à 2 journées de la fin, ça peut suffire. Surtout que Monaco était acquis que Monaco va aller en Ligue des Champions, donc le dernier match contre Monaco il a pas tout à fait la même signification. Donc pour Nantes effectivement ça semble être fait. Et après oui, non, moi je suis assez d'accord pour dire que là le classement on l'a à peu près, si ce n'est qu'effectivement Clermont qui m'a l'air de vivre très bien sa descente, enfin d'avoir digéré déjà, est plus performant.
Après Clermont c'est un 18e qui est pas écœurant du tout, hein. Sincèrement, quand tu regardes les matchs, c'est une équipe qui a souvent de la personnalité. Ils ont fait 3 ans en Ligue 1,
c'est pour ça ils perdent quand même quasiment tout le temps.
Oui, ils font 25 points. Lorient qui a un budget, je crois que Lorient a le 8e budget de Ligue 1. Lorient, on n'en parle pas, mais si ça descend, ils ont injecté encore 10 millions d'euros de transfert en janvier, là, avec Bamba, Luzza, Katseras. Lorient, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que fait ce club. Hein, ça fait l'année dernière, ils étaient 8e. Hein, ils font des miracles. Hein.
Ouais, non, mais
pas cette année. Mais juste que même cette année, en étant 18e, ils sont à un point de Lorient, 4 points du barrage. Hein.
Ouais, Lorient, c'est quand même un accident industriel. Ah oui, effectivement, là, mais... et là Loïc Ferry à un moment donné va falloir en parler parce que là les clubs dont on parle, que ce soit Le Havre, que ce soit Metz, là Lorient et Nantes, c'est eux qui étaient par rapport au budget qui étaient les plus en danger.
Lorient, vérification faite, c'est 11e budget.
11e budget,
ouais, mais même
on est quoi, c'est pas sûr, je sais pas s'il y a eu une amélioration cet été
pour avoir, mais en tout cas... tu vois Nantes et Lorient, pour te dire, ces deux équipes qui auraient pu descendre, Nantes qui va sans doute s'en sortir et Lorient qui va y aller, sont 9e et 11e budget de Ligue 1. C'est des clubs qui ont des moyens, qui ont une histoire, et là je pense que Loïc Ferry, qui a donné des leçons à beaucoup de monde, il va y avoir un examen de conscience et un examen tout court à faire sur cette équipe. Parce que pour le reste,
de Régis Lebris, hein, qui devait aller à Nice l'année dernière et qui l'a quitté.
Ouais, mais je pense d'ailleurs que le début de l'histoire sportive de la descente à poser en fer, il est un peu là. Ça commence un peu là. Quand il veut se barrer et que les joueurs le sentent, que derrière ça va pas. Après, j'ai cru vraiment que le mercato d'hiver allait faire l'affaire, enfin allait jouer.
Bah ça a impulsé un peu au début avec Bamba et Luzza notamment.
Et c'est vrai que là, t'as rien de très étonnant à ce que Clermont et Metz luttent pour la descente. On s'y attendait depuis le début de la saison. Enfin, pour ne pas descendre, bon, Clermont va descendre et Metz est probablement barragiste. Le Havre, finalement, si Le Havre s'en sort, c'est Le Havre qui fait le petit exploit de ces équipes-là, de cette team, on va dire.
À la descente.
Oui, voilà, eux avec les deux autres, là, avec CVC, Metz et Clermont. Metz et Clermont, et c'est vrai que Le Havre, s'ils s'en sortent, malgré le coup de mou qu'ils ont eu là, il y a quelques journées, c'est quand même assez intéressant aussi.
Le point au parc a fait beaucoup
de
bien.
Ouais,
et là, le match contre Strasbourg où ils ont fait un match assez cohérent.
Bon, évidemment, par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce que propose Elsner, par rapport à son premier passage, nous qu'on avait suivi avec Amiens, tout ça, c'est assez intéressant. Je parle aussi puisqu'on parle de ce que les gens proposent. On parle de Brest. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils proposent. Brest, c'est pas juste qu'ils soient troisième. Mmh. C'est ce que propose Le Havre en bas de tableau. Bah, c'est intéressant aussi. Tu te dis,
même
bah,
si tous les matchs n'ont pas été, mais c'est vrai que parfois, ils ont été mal payés.
Il y a eu des choses. Et même, le match au Paris Saint-Germain, au Parc, il est intéressant pour ça. Une équipe qui était pas bien du tout, qui vient évidemment avec ses moyens, faire ce qu'ils ont fait au Parc, c'était quand même là pour le coup, puisqu'on dit souvent c'est pas encourageant pour la Ligue 1. Ça, je trouve, c'est encourageant. Et t'as raison de souligner même que Clermont, longtemps dans sa façon de faire dans cette Ligue 1, ils ont essayé de faire des trucs et de jouer. Donc,
le Havre, quand tu prends le match contre Lens là récemment, le match contre le PSG, même les défaites contre Montpellier et même contre Nantes, où ils sont souvent mal payés, ils essayent de proposer. Donc oui, c'est.
Après, ils ont peut-être.
Ils ont un problème offensif qui
est leur genre cadre aussi.
Le Havre, c'est avec Clermont. Pour moi, l'effectif le plus faible de la Ligue.
Ah oui, oui. Bah, c'est les
donc,
moyens
au final,
les plus.
Bravo, bravo le Havre.
C'est les moyens les plus.
Ouais, alors je dirais qu'il y a plus d'idées qui m'intéressent dans les joueurs que j'ai vu au Havre. Même si certains, après, Alioui qui est parti m'intéressait. Keshta, il m'intéresse, même s'il a des trous.
Targaline surtout.
Targaline, même Loïc Négo, tu vois.
Il est un peu moins bien Négo, mais en fait,
dans l'idée de soit je veux relancer, soit je trouve des pépites, soit j'ai cherché à l'étranger, des joueurs. Et en tout cas, il y a des choses qui sont intéressantes.
Après attention parce que Clermont c'est la troisième année de Ligue 1, donc c'est très très dur la troisième année de Ligue 1. Mais ils ont fait, je répète, mais Clermont ils font huitième l'année dernière.
Dimanche prochain on devrait savoir. Je rappelle que là le week-end prochain il y a deux matchs le vendredi et puis tout le reste de la journée.
Le Havre pourrait être sauvé si Metz ne gagne pas. Si Metz perd à Strasbourg, il pourrait être sauvé.
Pourquoi il y a deux matchs c'est deux matchs et huit matchs.
Ouais, deux matchs vendredi et les autres matchs dimanche soir tous ensemble.
Bah, si, il y a une raison.
Dernier tour du Grand Prix de Miami.
Et oui, dernier tour événement Gilbert. Effectivement avec Lando Norris, le jeune pilote britannique de 24 ans de l'équipe McLaren qui maintenant dans quelques centaines de mètres devrait remporter la première victoire de sa carrière de pilote de Formule 1. Ça va être un sacré événement. On savait qu'il avait le potentiel, notamment depuis le Grand Prix de Sochi il y a quelques années, où il était en tête également, mais on a fait une erreur dans son équipe. On ne lui a pas monté les pneus pluie et il est sorti de la piste, malheureusement très proche de l'arrivée. Et donc il n'avait pas remporté cette épreuve, mais on savait qu'il avait le talent. Lando Norris, et le progrès des McLaren depuis le milieu de la saison dernière, on s'en souvient, depuis le Grand Prix d'Autriche notamment, permettait aux pilotes McLaren, Lando Norris donc et Oscar Piastri de montrer leur potentiel. Ça va être beaucoup d'émotion hein, pour le jeune britannique là qui va reléguer Max Verstappen avec la Red Bull. Il avait dit qu'il n'était pas très à l'aise. Alors l'astuce évidemment du côté de McLaren, ça a été d'arrêter au bon moment, au 30e tour, Norris qui a bénéficié d'un arrêt, je l'avais souligné tout à l'heure, en perdant beaucoup moins de temps que ses adversaires puisqu'il était sous régime de safety car. Et voilà la victoire magnifique là de Lando Norris à 24 ans, première victoire McLaren depuis la victoire de Ricciardo, c'était à Monza en 2021, donc il y a 3 ans pratiquement maintenant. Verstappen va prendre la deuxième place, et oui, c'est la joie évidemment dans le clan McLaren. On peut celle-là l'apprécier à sa juste valeur, on est en cours après depuis un bon moment, et la belle victoire de Lando Norris, donc remportée ici à Miami avec 2 safety cars. On a parfaitement su exploiter le règlement et les circonstances de course du côté de McLaren. Verstappen est donc deuxième. Bon, il reste largement.
Avec Chuck, hein, Lando.
Il va ?
Non, je veux dire, rien à voir avec Chuck.
Oui.
Rien à voir avec Cameron non plus.
Rien à voir. Charles Leclerc va terminer troisième avec la Ferrari, la première des Ferrari. Carlos Sainz est quatrième. Sergio Perez, cinquième avec l'autre Red Bull. Lewis Hamilton, sixième avec la première Mercedes. Il y a Yuki Tsunoda, le jeune japonais de RB qui fait un très beau Grand Prix, termine septième devant George Russell, huitième. Fernando le neuvième et vous l'attendiez, eh bien, le point. Esteban Ocon termine 10e et enfin arrache un point pour l'équipe Alpine. Donc c'est une très bonne nouvelle. Hülkenberg 11e et Gasly termine 12e. Quant à Piastri qui figurait parmi les premiers, on a vu cet accrochage tout à l'heure, eh bien il est remonté à la 13e place après s'être arrêté au stand. Magnifique victoire de Lando Norris, donc le jeune britannique de 24 ans de l'équipe McLaren. Première victoire de sa carrière.
Et pour tout ça, les McLaren, curie mythique.
Ah, mais curie mythique.
Puisqu'on parlait de Prost et de Senna. Et pour tous ceux qui ont suivi je sais que c'est pas ton cas, mais via Drive to Survive sur Netflix, qu'ont découvert la F1, c'est le cas de plein de jeunes. Zach Brown, c'est le monsieur fort là qu'on a vu réagir, oui, et qui est team manager,
le monsieur un peu enveloppé qui est le patron de McLaren.
Le patron de McLaren, parce qu'on suit les déboires de justement des années McLaren un peu terribles dans Drive to Survive, et on le voit.
On va rappeler les victoires de Mika Hakkinen aussi quand même, hein, qui était magnifique, exact, à la fin des années 90.
Champion du monde.
Les deux champions du monde deux fois consécutivement.
Ouais, ouais. Jean-Luc, merci
98,
beaucoup.
98-99, mais c'était un plaisir.
Très bien. Jean-Luc.
Bah oui.
Fais attention sur la route. Hein.
Toujours. Je fais toujours très attention. Moi.
Dans un instant, nous allons retourner
au prochain Grand Prix.
Oui.
Et ben, ça va être justement l'Italie, ça va être Imola. Donc, circuit mythique, on l'évoquait à propos de Rennes. Voilà.
Merci Jean-Luc, bonne nuit, bonne soirée. Nous, merci, on continue le débat Mbappé dans quelques instants dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h40, Walid Acharchour est là et Florent Gautreau est là. Bon, on va ouvrir ce débat Mbappé. Comprenez-vous le désamour envers Mbappé ? C'est un truc qu'on n'a pas eu le temps d'aborder sereinement dans l'after. Il y a eu tous les matchs la semaine dernière et on s'est beaucoup concentré sur les rencontres. Mais bon, voilà, il y a parmi les supporters du Paris Saint-Germain, clairement, je pense que vous serez d'accord, un désamour autour de Mbappé. Le fait qu'il ne joue pas certains matchs de Ligue 1, on l'a vu rester sur le banc récemment tout un match, bah, finalement, ça ne gêne pas grand monde. Voilà, on le voit déjà parti, alors que paradoxalement, c'est lui qui pourrait, pourquoi pas, on le souhaite, aux supporters parisiens, offrir une Ligue des Champions au club dans quelques jours. Je ne sais pas qui veut démarrer. Flo, Walid, est-ce que vous comprenez ce désamour ?
Bah, non, je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Je vais pas revenir sur toute l'histoire. Peut-être que Walid voudra y revenir, mais sur tout ce qui s'est passé au niveau contractuel, dans la façon dont lui-même a géré politiquement l'équipe, jouer l'équipe comme ci, comme ça. Bon, ça, c'est un point. C'est important d'y revenir. C'est pour expliquer un peu ce désamour. Il y a ça. C'est que quand tu dis que tu veux être au centre du projet, que tu l'es, que tu demandes des garanties, que tu changes l'image à ton équipe, l'équipe à ton image, enfin, à tes besoins, tout ça, c'est une des raisons. Moi, je veux revenir sur un truc très lié à l'actu et à ce qui s'est passé ces derniers temps et ces derniers jours, et notamment au dernier match de Ligue des Champions. C'est le désamour, il est mérité parce que sportivement, Mbappé ne fait pas ce qu'il faut. Et les débats qu'on a eus sur Luis Enrique étaient intéressants à ce titre. C'est que si Luis Enrique était allé au bout même de sa logique sportive dans le dernier match, il devait sortir Mbappé. Parce que Mbappé, si tu veux, n'y arrivait pas et ne faisait pas le match qu'il fallait. En fait, Mbappé, il fait plein de matchs.
Il devait sortir. En même temps, il va pas l'utiliser.
Non, justement, c'est ça l'histoire. C'est que Mbappé n'est pas content de la façon dont il est utilisé. Parfois, il l'oublie et il décide de faire ce qu'il faut et ça devient un joueur qui rentre dans le collectif. Et la plupart du temps, il refuse ou il ne veut pas le faire. Et tu as un joueur qui est hyper compliqué à gérer. Aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est pour sortir de nos querelles franco-françaises, on va dire, ou hispano-françaises avec Luis Enrique, c'est de regarder les autres jeunes joueurs dans d'autres équipes européennes, de voir comment tu te comportes par rapport au collectif. En fait, ce qui me gêne avec Mbappé, moi, là, sportivement parlant, c'est que il demande le ballon dans les pieds. En gros, Mbappé, dans sa tête, c'est l'action ne débute quand vous m'avez donné le ballon. Nasri a dit ça le jour après un match, mais c'était déjà, je crois que c'était après le match aller contre Barcelone sur Canal. J'ai trouvé que Nasri avait parfaitement résumé ce que sportivement Mbappé ne faisait pas. On a déjà parlé des replacements défensifs inexistants. Il fait semblant de se replacer.
C'est pour ça qu'il joue au poste de numéro 9.
Voilà, il coupe à peine la ligne de passe. Et c'est pour ça que moi, j'ai critiqué, entre guillemets, le choix de Luis Enrique de faire entrer Kolo Muani l'autre jour, parce que je pense que Kolo Muani n'a pas confiance. C'est pourquoi il l'a fait. Ouais. Parce que ce côté gauche avec Nuno Mendes qui n'allait pas, il s'est dit si je mets Mbappé côté gauche qui déjà ce soir-là ne faisait pas le travail défensif, on peut perdre, prendre d'autres buts.
Même si ce n'est pas ma vision du foot, mais je pense que c'est ce qui
se En fait, si tu veux, on a un problème avec Mbappé qui est que c'est un joueur exceptionnel qui, d'ailleurs, comme Luis Enrique l'a pensé au dernier match, peut à tout moment de faire gagner un match, et c'est vrai, mais qui ne s'inscrit pas, ou du moins une partie du temps dans le collectif. D'ailleurs, quant au match retour, il est très bon, enfin il est bon contre Barcelone parce qu'il a pas non plus été exceptionnel, oui, malgré les stats.
Un bon 6.
Ben, en fait, il avait récupéré un ballon par exemple, fait de temps en temps.
Sur le deuxième
but. C'est très très rare. Voilà. Donc en fait, si tu veux, en gros pour être très simple, si Mbappé, en dehors de toute l'affaire politique et liée au contrat qu'il a occupé au PSG, si Mbappé sportivement accepte et décide, et là je pense que ça vaut pour le Real, ça vaut pour l'équipe de France, ça vaut de se mettre plus dans le sens collectif du foot. C'est-à-dire, oui, je suis obligé de me replacer. Oui, je suis obligé de faire des courses défensives. Oui, effectivement, si je veux jouer, par exemple, à gauche, je suis obligé de faire ce travail-là. Et même quand je suis neuf, oui, parfois, il faut faire du travail de haut but. Et surtout, par exemple, pour un attaquant, faire des choses et des appels qui ne servent pas forcément à toi, mais pour aux autres. Et ça, en fait, si tu veux, moi, je sors de tout le débat, tu vois, le côté humain où on dit, ah ouais, mais c'est le génie, à tout moment, il peut te faire gagner un match. Ok, il a mis une frappe sur le poteau, il a fait une passe qui aurait pu être décisive pour Dembélé. Mais tu te dis, d'accord, ok, donc s'il avait fait ça, par exemple, il aurait eu 8 dans l'équipe le lendemain. Ouais. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. En fait, si tu veux, le truc, c'est que Mbappé, il est tout ce que j'ai dit qu'il ne faisait pas, il est absolument évidemment capable de le faire. Et moi, c'est juste ça que je veux. Je veux qu'Mbappé grandisse sportivement pour devenir un joueur plus collectif. Et là, il n'y aura pas le désamour qu'il y a aujourd'hui. En dehors de tous les problèmes politiques, je pense que s'il y a aussi du désamour en ce moment, il y a du dépit amoureux lié au contrat et à son départ, mais il y a du désamour lié aussi à ce qu'il ne fait pas sportivement sur un terrain.
Mais moi, je pense qu'on ne peut pas décorréler ce qui se passe sur le terrain de ce qui s'est passé en dehors. Et moi, je pense que le désamour, notamment des supporters du PSG, on en a beaucoup parlé avec Daniel. Pour lui, Daniel, c'était pas important ce qui s'est passé cet été. Mais pour moi, je pense que les gens ont vu clair dans le jeu de Kylian Mbappé. Il faut qu'on rappelle quand même, Gilbert, que s'il n'y a pas l'histoire du Japon cette saison, c'est-à-dire que s'il n'y a pas Nasser El Khelaifi qui lui dit tu pars pas au Japon, Kylian Mbappé veut aller au bout de son contrat, partir libre au Real Madrid, prendre la prime de fidélité, la dernière année qu'il a au Paris Saint-Germain, et ne pas partir au Real Madrid, et prendre la prime au Real Madrid. Et ça, pour les gens ne l'ont pas accepté parce qu'il n'y a aucun joueur dans l'histoire du football, avec sa renommée, avec sa valeur marchande, qui n'a rien laissé, entre guillemets, financièrement à son club. Cristiano Ronaldo à Manchester United.
Même les supporters.
Je pense que c'est important.
Qu'ils s'en foutent
non,
de ça.
Non, parce qu'en fait, quand Kylian Mbappé et quand les médias disent.
Ils ont un club qui, de toute façon, c'est un puissant fond.
Parce que c'est important. Quand Kylian Mbappé a dit en 2021 au micro de Jérôme Rotten que lui, il veut laisser un héritage financier et, comment dire, et sportif à son équipe, il s'est contredit et la communication, elle est très importante. Quand on dit que Kylian Mbappé a une très très bonne communication, il a dupé certains. Et quand on nous explique qu'en fait, au final, Kylian Mbappé, il a l'amour du Paris Saint-Germain, qu'il a le PSG dans le sang, etc., notamment dans les médias, et que ça se retranscrit pas dans ses actes, eh ben, je peux comprendre qu'il y a un désamour avec les supporters. Et surtout, en plus, je rappelle que, en 2022, quand il fait le 2+1, Gilbert, il y a quand même une lettre qui est rédigée 3 semaines après, donc en septembre, et envoyé en juin pour dire qu'en fait c'est cette année-là il la lèverait jamais. 2-3 semaines.
Mais enfin là-dessus, si on revient surtout, sans doute que là il a répondu oui à Nasser Al-Khelaifi qui voulait pas 2 ans.
Non mais c'est comme si moi je me marie avec ma femme au bout de 3 semaines elle te dit non en fait.
T'as bien compris qu'il a aussi cédé aux demandes des Qataris à ce moment-là.
Mais personne lui a mis.
On a trouvé un compromis.
Mais je te dis juste que encore une fois ce qui s'est passé en coulisses a eu un effet sur encore une fois le désamour qui a pu être créé entre les supporters et Mbappé.
En gros, Mbappé voulait 2 ans. Et encore une fois,
même si ici, et je me bats souvent avec Daniel, que voilà, en gros, c'est le gendre idéal, il a tout fait parfaitement. Quand on sait ce qui s'est passé l'année dernière, quand il y a eu la République des copains qui sont arrivés, qu'il fallait entre guillemets franciser le vestiaire, que il y a eu l'histoire du pivot gang, il y a eu l'histoire de certaines déclats, etc. Quand il dit après Nantes, parce que pour vous ça n'a aucune importance, mais quand il dit après Nantes alors qu'il dépasse Cavani, quand il répond si c'était pour gagner la Ligue des Champions, je serais parti très rapidement du Paris Saint-Germain, je serais pas au Paris Saint-Germain. Tous ces petits trucs là, je pense que le désamour se creuse par rapport à ça. En plus, son attitude sur le terrain, ses performances qui sont souvent pas bonnes, parce que je rappelle que les 4 derniers matchs en Ligue des Champions, notamment au Parc des Princes, c'est un non-match contre Newcastle, le 1-1, où il sauve son match par un penalty. C'est un bon match contre la Real Sociedad. C'est un non-match contre le Barça à gauche. Voilà.
Oublie pas le retour à Barcelone.
Mais le retour à Barcelone, il met un penalty, il est plutôt bon, mais je mets 3 ou 4 joueurs parisiens devant. Et donc tous les débats autour de Luis Enrique, son histoire à Monaco, parce qu'on a voulu mettre, on a voulu mettre Luis Enrique, en le traitant de fou, etc., parce qu'il avait sorti à la mi-temps. Mais quand t'as un mec qui prend ton téléphone, à la mi-temps, qui appelle personne, qui fait des selfies avec tout le monde, et qui va regarder la deuxième mi-temps, avec sa mère à côté, on peut pas me dire que les supporters du PSG ne peuvent pas être mécontents du comportement de Mbappé.
Mbappé et que ça n'a aucune influence sur la trace que tu laisseras. Alors oui, t'auras mis plus de 200 buts. Oui, tu vas peut-être gagner la Ligue des Champions, mais il y aura peut-être un aspect robot entre les supporters et Mbappé, c'est-à-dire il marque, très très bien, tes stats, la course à moi je JE et pas le jeu JEU. Mais au final, qu'est-ce que tu auras laissé en termes d'amour, en termes d'échange avec les supporters? Et ça, si vous voulez pas l'entendre, malheureusement, vous êtes loin de la réalité.
J'en reviens aussi à la gestion de Luis Enrique, c'est-à-dire qu'il a été vu comme un moyen de je veux être le chef et je veux me farcir la star et tout. En fait, il faut le voir très différemment à mon avis. Il faut voir que Luis Enrique, il essaie de réveiller, pas seulement de le piquer en disant je te mets sur le banc, tu vas être meilleur le match d'après. Le changement de poste, c'est pour dire à Mbappé, c'est pas une sanction, c'est pour lui dire il te faut les deux postes. Il faut que tu sois performant en neuf, d'autant qu'en plus effectivement moi je ne peux pas jouer avec toi si tu es en haut à gauche sur le côté, si tu ne fais pas plus d'efforts défensifs. Donc dans les deux postes de toute façon, tu as des progrès à faire. C'est-à-dire oui, il faut revenir dans le jeu quand tu es neuf, oui, il faut jouer de haut but, oui, il faut faire des appels pour les autres, et si tu joues à gauche, oui, il faut défendre. C'est-à-dire que de se dire juste à Luis Enrique, c'est un caractériel qui veut montrer que la seule star c'est lui et qu'il n'y a aucune star. Non, c'est pas ça l'histoire. C'est que Luis Enrique, ce qu'il aimerait d'Mbappé, c'est ce qu'il a vu d'ailleurs parce qu'on voit des portions de match comme ça, c'est un Mbappé qui se défonce, pour aller chercher un ballon, pour aller le récupérer et pour défendre, ça arrive parfois. C'est Mbappé qui effectivement fait des efforts pour les autres.
Il avait été très bon.
Mais il le fait. Mais Mbappé sait tout faire.
Flo, ce qui est dérangeant, c'est qu'il le fera au Real Madrid.
Mais bien sûr,
et au Real Madrid,
obligé.
Il jouera numéro 9. Il verra 40 buts. Et aujourd'hui, les débats qu'on a actuellement,
ce que Luis Enrique juste dit à Mbappé quand il fait
une
ça,
minute de pause.
C'est. Il lui a dit d'ailleurs, et ils se sont expliqués d'ailleurs, tu es le meilleur joueur du monde, oui, peut-être, tu peux l'être. Mais en fait, montre-moi que si tu obéis à 2-3 trucs très simples, tu vas progresser et que tu es capable de jouer à tel et tel poste. En fait, Mbappé n'a pas montré suffisamment au coach et à ses supporters qu'il pouvait être ça. Et là, qui plus est pour finir, il y a le body language et la façon d'être sur ces derniers matchs qui me paraît effectivement un petit peu problématique dans cette fin de saison.
Ahmed avec nous dans quelques instants pour continuer le débat, on se retrouve tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h52, Olivier Cherchant, Florent Gautreau, le Sporting Portugal champion. Hein, je ne vous l'ai pas dit, mais le match est bel et bien terminé à Famalicão. Et Ahmed avec nous pour continuer le débat. Mbappé, salut Ahmed.
Salut les gars, merci de la parole.
Ahmed, est-ce que tu es d'accord avec Florent et Walid?
Non, moi je pense qu'on en fait trop sur Mbappé. Je pense qu'il fait ça, il fait une saison moyenne, il est. C'est pas le plus performant cette année, il n'a pas la vitesse, il ne fait pas de différence par la vitesse. Donc il l'a mis en neuf parce qu'il sait que Barcola, bah, il va vite et il fait des passes. Et Barcola défend sur le couloir, donc il l'a inventé en le mettant en neuf parce qu'il n'y a pas d'autre poste où on peut le mettre aujourd'hui. Je crois qu'on analyse l'attitude d'Mbappé sans tenir compte d'un propriétaire qui a fait n'importe quoi. On sait aujourd'hui beaucoup de choses sur Neymar, son comportement, règle bourré à l'entraînement. Verratti, règle bourré en discothèque quasiment toute la semaine. Donc il a vu des choses. Je vous rappelle que Rabiot, lui, s'est barré très vite. Il a vu. On comprend pourquoi Rabiot est parti. Il a été aussi dur.
Mais quel est le rapport avec Verratti et Neymar? Je comprends pas.
Parce que Mbappé, il a vu un propriétaire, le Qatar, qui faisait n'importe quoi.
Ah d'accord. Qui lui a laissé la porte. Ah ok, d'accord. Oui, ok.
Non mais à un moment, t'es obligé de tenir compte aussi du fait que c'était le foutoir au PSG.
Ok, donc ils sont
engouffrés. On a prolongé Neymar, alors que tous les supporters voulaient qu'il dégage.
Donc ils sont engouffrés.
On a prolongé Verratti.
Donc ils sont engouffrés là-dessus.
Non mais
sur ça il a raison, c'est que peut-être ce qui s'est passé avant a permis à Mbappé de s'engouffrer. On se rappelle que la maman Mbappé avait dit notamment à France 2 avec Élise Lucet que si elle avait pu prendre 10 milliards, elle aurait pris 10 milliards. Mais après ça encore une fois, moi je juge pas, j'aurais fait peut-être sûrement la même chose. Mais la réalité c'est que peut-être qu'elle a senti qu'à un moment donné on lui avait donné les pleins pouvoirs, qu'on avait donné les pleins pouvoirs au clan Mbappé. Et ça c'est une réalité. Il y a aussi une responsabilité de la part de Nasser là-dessus, même si moi il y a une petite voix dans ma tête qui me dit que avec un joueur comme Kylian Mbappé, avec tout ce qu'il représentait en termes d'image, c'était quand même un joueur très très bankable qui avait 23, 22 ans à l'époque notamment, et Neymar qui commençait à être blessé et vieillissant. Je sais pas si le PSG aurait pu mieux faire. Sincèrement, entre l'histoire du Qatar où il fallait garder les meilleurs joueurs, le fameux soft power, moi j'y comprends pas grand chose, mais voilà, il fallait avoir les trois numéro 10 à la Coupe du Monde, plus le fait qu'il fallait pas le laisser partir libre l'année d'après. En fait, tu te rends compte qu'avec Mbappé, tous les ans, ça a été un problème. On va parler des trophées UNFP si on a du temps. Vous vous rappelez en 2019 Non, mais vous vous rappelez en 2019 ce qu'il dit au trophée UNFP. En 2019, quand il dit, moi, je veux plus de responsabilité, je veux jouer numéro 9 à la place de Cavani. On se rappelle pas de ça. Il avait, donc, tous les ans, on avait quand même un problème Mbappé qui soit était pas content du recrutement, soit pas content de sa place, soit pas content de, ça a été quand même un poison quand même.
Vas-y, tu peux enchaîner.
Mais c'est le propriétaire qui crée ça. Si le propriétaire est propre, si le propriétaire se rend compte que Neymar, c'est une escroquerie et qu'il faut le laisser partir, Verratti, pareil, tout Paris. Moi, j'ai des supporters qui me disaient « Ahmed, tout le monde le sait, il est en discothèque H24. Et toi, c'est la serre, tu le sais pas ?» Il y a un moment, quand ton propriétaire se comporte comme un guignol, eh ben, il récupère les fruits de son travail.
Mais ça fait argument d'autorité sur Nasser. On peut pas dire Nasser a fait n'importe quoi et aussi Mbappé a eu un comportement.
Il y a un truc à mettre quand même. Alors ok pour
il
le propriétaire.
1 minute 40 les gars.
Non mais pour le propriétaire, je suis d'accord juste sur Mbappé. Moi je reviens à des choses plus simples et ponctuelles sur la fin de saison. Quand tu es Mbappé, que tu dis, tu parles beaucoup d'exemplarité, d'efforts à faire. Tu dois montrer cela aussi. Tu dois te dire, et je le pense d'ailleurs sincèrement qu'il veut gagner avec des champions avec le PSG.
J'espère quand même.
Donc, et si tu veux, je suis étonné de la part d'Mbappé qu'il ne fasse pas tous ces efforts qu'on lui demande, y compris défensifs, y compris pour aller chercher, et d'être toujours, comme disait Walid tout à l'heure, toujours trop dans ses stats. C'est
de
incroyable.
Faire des différences, Flo. C'est le meilleur joueur au monde pour Gilbert Bribois. Pour Daniel Riolo. Pour beaucoup. Mais vous voyez sur le terrain, vous, un joueur qui est toujours aussi explosif qu'en 2020, qu'en 2021,
il a jamais marqué autant de buts.
Non mais ok les stats. Mais si c'est pour être un Christian. Non mais si c'est pour être.
Moi je suis pas un grand malade des stats, mais ça veut dire qu'il fait une bonne saison.
Non mais on doit se satisfaire d'un tir sur le poteau. Tu vois, par exemple contre Dortmund.
Tu dois te satisfaire de 45 buts par saison, ouais.
Ouais, c'est tout.
Donc c'est pas mal.
Non mais Mbappé, son rôle sur le terrain, c'est de faire des différences, de percuter.
Évidemment, mais
c'est incroyable. Mais ça, tu ne veux pas le voir progresser.
Vous avez devant les yeux le baobab de ce qu'il ne fait pas et vous oubliez la forêt de tout ce qu'il fait.
Non mais Didier Roustan l'a dit. J'étais complètement d'accord avec lui. Il disait, mais les grands joueurs.
Parce que Didier Roustan a dit un truc.
J'ai le droit d'être d'accord avec Didier Roustan quand même, non ? J'ai le droit de la. Je le prends en exemple. C'est un ami de l'after. Oui. Il disait, à 25 ans, les grands joueurs, qu'est-ce qu'ils faisaient ? On les voyait pas deux, trois fois dans le match. On les voyait quand même au four et au moulin. Moi, quand je vois le match de Dortmund, où quand il est au poste de numéro 9, il fait souvent ce même déplacement-là pour revenir coller Vitinha et faire le créateur de jeu et faire une passe latérale pour Dembélé ou pour Barcola, c'est parce qu'on attend de Mbappé. Un joueur qui a 25 ans, qui est aussi fort, il doit faire beaucoup plus de différence. Tu dois le voir pendant 90 minutes, ou en tout cas, au moins pendant 60. Là, c'est, oh bon, il a mis un but, il a mis un penalty, oh bah, il a mis un tir sur le poteau, c'est le meilleur parisien.
Oui, le débat continue. Demain, après-demain, évidemment, avec le match PSG Dortmund. Merci les gars. Demain, l'after sera là.
J'espère qu'il sera au rendez-vous pour
l'after avec Lille-Lyon. Bien sûr qu'il y sera.
Face à Ryerson et Madsen.
Faut le mettre à gauche.
Comme contre le Barça à l'aller. Où Jules Koundé lui a fait très mal.
Et Malen.
Non ?
Ça va passer,
on l'espère en tout cas.
Allez, bonne nuit à tous. N'oubliez pas d'aller sur l'after.media. D'ici là, il y a toujours les offres de la revue de l'after imbattable avec le fameux code RMC24 qui vous offre moins 20% sur toutes les offres d'abonnement à l'année. RMC24, c'est cadeau. Bonne nuit à tous, à demain.
RMC, l'after foot.